La revue de presse internationale avec Claude Guibal. Bonjour Claude.
Bonjour Guillaume Herner, bonjour à tous.
Et ce matin, Claude, sans surprise, vous êtes allé faire un tour de l'autre côté de la Manche après ce vote historique de la Chambre des communes britanniques qui a rejeté l'accord négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles.
Oui Guillaume, mais lorsqu'on ouvre la presse britannique ce matin, eh bien, il faut dire que ça claque à la une des journaux. Il y a cette photo de Theresa May. C'est quelques secondes après ce camouflé et elle a le visage marqué, elle a les épaules comme affaissées et il y a ces mots en première page du quotidien pro-Brexit The Daily Mail, Theresa May humiliée, Theresa May écrasée et Guillaume, on ne peut s'empêcher de penser alors à ce poème de John Donne.
No man is an island.
No man is an island. Aucun homme n'est une île, un classique de la poésie britannique. Ce poème qui dit encore que tout homme est fragment d'un continent et que si la mer emporte une motte de terre, l'Europe tout entière en est affaiblie. Ce poème, il se termine par ces mots. N'envoie personne demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. Alors ce poème, on se demande s'il ne résonne pas ce matin dans la tête de Theresa May. Son maintien ne tient plus qu'à un fil, écrit le Daily Mail, avec ce résultat jugé catastrophique. Ce résultat qui menace de plonger la sortie de l'Union européenne dans le chaos. Pas d'accord, pas d'espoir, pas le début d'une piste, pas de confiance, écrit encore le Mirror qui éreinte la première ministre britannique. Elle porte selon lui la responsabilité de la guerre civile, et oui, ce sont les termes du journal, guerre civile qui déchire le parti conservateur au lendemain de ce vote, et alors que le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, appelle ce soir au vote d'une motion de censure. Nous savions tous que ça arriverait, écrit Dominic Sandbrook dans le Mirror, mais ce que nous n'imaginions pas, dit-il, c'est à quel point cette défaite serait vertigineuse. Et même si nous vivons à l'époque des chocs politiques, un tel résultat, une défaite par 230 votes, c'est tout simplement extraordinaire, continue l'éditorialiste, du jamais vu dans l'histoire du gouvernement britannique.
C'est dire, Claude, si la suite s'annonce compliquée.
Elle est surtout très incertaine, la suite, Guillaume. Tous les médias, la BBC en tête, questionnent les scénarios du futur. Une sortie sans accord, l'annulation du Brexit, un deuxième référendum, une extension de la période des négociations. Après cette incroyable défaite, notre pays est perdu et à la dérive, écrit le Guardian, quotidien anti-Brexit bien sûr, qui fustige un Parlement paralysé par son indécision, incapable d'embrasser l'Union européenne, mais tout aussi incapable, Guillaume, de la quitter.
Autre crise, Claude, on part en Afrique et plus précisément au Soudan.
Au Soudan, la contestation n'en finit pas. Le mouvement de colère, il dure déjà depuis un mois, après le triplement du prix du pain. Il demande aujourd'hui le départ du président Omar al-Béchir au pouvoir depuis 30 ans, 24 morts déjà dans ce soulèvement. Alors pour les racines de la colère, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur l'analyse du Washington Post. Mais il faut aussi lire le Sudan Tribune et cet éditorial de l'opposant Yasser Amin. Il parle d'un tsunami désespéré d'hommes et de femmes qui, dit-il, se battent contre le fascisme islamiste et portent à la fois le combat des villes et des campagnes, des hommes et des femmes qui posent les fondations d'un nouveau mouvement pour les droits civiques. Et bien sûr, cette colère populaire, elle inquiète. Elle inquiète dans tous les pays arabes et bien évidemment, une fois de plus, en Arabie Saoudite. Cette Arabie qui a tout fait pour empêcher, souvenez-vous, la chute des Moubarak et autres Ben Ali de peur de subir le même sort. Et bien aujourd'hui, les journaux saoudiens font résonner cette même inquiétude. Lorsqu'un pays se soulève après avoir été appâté par des politiciens et que le régime légitime s'écroule, c'est tout le pays qui va sombrer dans le chaos, fustige The Arab Times. Regardez le Yémen, regardez la Syrie, reprend le journal. Saddam Hussein ou Kadhafi avaient peut-être des défauts, mais leur pays au moins était stable, martèle l'éditorial en mettant en garde le peuple soudanais contre, je cite, le vent toxique des printemps arabes, c'est dire l'inquiétude.
Et le vent, ce matin, Claudie, nous emmène loin, hors de nos frontières habituelles.
Oui, venez avec moi, Guillaume, il nous pousse jusque sur la lune, le vent, où vient justement pour la première fois de pousser quelque chose, une de coton qui a germé à bord de la sonde chinoise Chang'e 4. Vous savez, c'est cette sonde qui s'est posée sur la face cachée de la Lune. C'était le 3 janvier dernier. Alors, c'est une toute petite graine, avec une toute petite feuille, mais une feuille géante pour l'humanité, titre le Guardian ce matin. Et ça, c'est un développement majeur, explique le journal, qui nous explique que la possibilité de faire pousser des plantes dans l'espace, eh bien, ça va permettre d'établir des bases humaines ailleurs dans le système solaire. Et par exemple, sur Mars, vers où la Chine compte aller faire un petit tour en 2020. Alors, la conquête de l'espace, Guillaume, ça a toujours été guidé par des considérations politiques, rappelle The Guardian. Dans les années 60, les États-Unis craignaient la puissance soviétique et donc ils étaient prêts à tout pour lui barrer la route, y compris dans l'espace. Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis semblent dans l'impasse. Ils se demandent comment maîtriser l'émergence de la Chine en tant que puissance mondiale dominante et le journal s'interroge. Alors que la démocratie libérale s'effrite à l'ouest et que le capitalisme autoritaire s'enracine à l'est, nul ne sait comment s'écrira le futur de la nouvelle guerre
froide. Voilà, donc on va planter des choses sur la Lune. Des aubergines, ça pousse très très facilement.
Pourquoi les aubergines?
Parce que ça pousse très facilement.
Claude. Et des fleurs.
Des fleurs également, mais le coton, ce n'est pas vraiment une fleur. Merci beaucoup. Claude Guibal, il est 7h41 sur France Culture.